Bonjour, mesdames et messieurs. Puisque l'Observatoire est né en France et avec une contribution fondamentale des intellectuels français à l'organisation de cette association si originale en fait et si importante en vérité, je ferai mon discours en français. Il y a un nombre d'années, l'Observatoire a demandé, par le biais de son président et d'une très enthousiaste animatrice qui n'est plus avec nous aujourd'hui, de penser à la possibilité d'offrir le haut patronage royal à l'Observatoire. À l'époque, évidemment, l'activité était beaucoup plus restreinte, c'était seulement une idée, une initiative qui était à la fois téméraire et généreuse. Et j'ai répondu affirmativement sans hésiter parce que dans le concert des efforts que notre continent fait pour mettre ensemble des parties géographiques et culturelles différentes de l'Europe, une initiative pareille de mettre les gens ensemble à travers leur langue était quelque chose de très important et en fait de fascinant. Le début n'a pas été du tout facile. Nous avons eu le plaisir d'être ensemble à Paris il y a 13 ans, je crois, à la Maison de l'Europe, où une personnalité de la voix européenne, Catherine Lalumière, nous a hébergés pour un discours sur la Roumanie. Et aujourd'hui, exactement pendant la présidence de la Roumanie au Conseil de l'Union européenne, l'Observatoire nous fait le plaisir et la surprise et l'honneur de passer les jours de la conférence annuelle au sein de la capitale roumaine, qui est pour 6 mois aussi symboliquement la capitale de l'Union européenne. J'ai donc pensé tout de suite, qu'est-ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, quelque chose qui soit, disons, pas original, mais de nouveau, dans votre perspective qui est beaucoup plus compétente que la mienne en ce qui concerne l'importance de la langue dans le développement de l'être humain et du citoyen. Et je me suis rappelé qu'il y a quelques mois, j'ai été invité à prendre la parole à un sommet tout à fait différent, un sommet économique qui mettait ensemble non pas les parties de la culture du monde, mais les économies du monde, surtout de l'Europe et de l'Asie, à Istanbul. Et j'ai choisi de parler des principes, des idées, des vertus, des valeurs qui feraient nos sociétés demain plus stables et plus prédictibles. Alors, aussi curieux que ça pourrait être, ou paraître, le multilinguisme est un instrument que je considère essentiel pour la stabilité de nos sociétés du lendemain. Non pas par lui-même, mais par les effets que l'étude et le partage de la force de la langue qu'on parle dans tous les domaines de la société, même dans les domaines de la sécurité nationale, sont pas très évidents de nos jours. Vous avez tous vu comme les dernières années, surtout après l'élargissement de la organisation qui s'appelle l'Union européenne et ce qui a été en fait une conséquence de la chute du mur de Berlin et des dictatures communistes du sud-est de l'Europe, que sans doute la démocratie de nos États, de nos nations, de nos peuples s'est développée et s'est approfondie, s'est élargie d'une manière que le monde n'est jamais connue avant. Nous vivons maintenant, au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle, à une expérience démocratique que l'humanité n'a jamais connue. Non seulement les grandes démocraties du monde, comme les États-Unis ou les pays de l'Europe occidentale, sont ceux qui connaissent aujourd'hui cet approfondissement de la démocratie, mais aussi nos pays. Les anciens pays communistes du bloc de l'Est, qui a été considéré pendant tellement d'années une espèce d'autre monde, une espèce de famille différente de la famille européenne des nations, ce qui est non seulement faux mais dangereux, ont connu les derniers 30 ans l'extraordinaire développement de la démocratie, parfois un contraste direct avec les capacités vraies, avec la réelle force de la société de assumer une démocratie pareille. C'est pour cela que héberger aujourd'hui la conférence et les prises de parole de l'Observatoire à Bucarest, la capitale d'un pays qui a connu il y a 30 ans la chute du régime communiste qui a régné ici pendant plus de 4 décennies, est une chose positive, une chance pour connaître des points de vue qui ne soient pas nécessairement identiques à celles de l'Europe occidentale, mais qui peuvent enrichir l'étude de l'importance des langues et de leur coexistence, de leur amitié, de leur mise ensemble pour le bien de l'humanité. Monsieur le Président et chers invités de l'étranger, vous êtes dans un pays qui est profondément ouvert à l'idée européenne depuis sa formation comme État moderne. Il n'y a pas beaucoup de pays au continent dont la fondation de l'État moderne soit tellement précise, à une date si précise, et l'œuvre d'une personnalité précise, exacte et forte de l'histoire moderne. Il s'agit du roi Carole Ier, fondateur non seulement de l'État roumain moderne en 1866, par la constitution qu'il a promulguée et qui mettait clairement en évidence que notre pays se nomme Roumanie et que c'est un pays qui se développe sur la base des principes de la liberté et de l'indépendance. Mais il est aussi le fondateur de cette institution qui nous héberge aujourd'hui, un nombre énorme d'institutions d'éducation, d'administration, de l'armée, de la culture roumaine pendant son long règne de presque 50 ans. Mais ce que je voudrais dire, ce n'est pas élogier la force de ce leader européen qui fut Carole Ier. Je voudrais parler du fait que, à cause de la position géographique de son nouveau pays, la Roumanie, notre société a été dès le début fondée pas seulement par la volonté des hommes d'État qui ont fait possible la création de l'État moderne, mais aussi à cause des réalités géopolitique du pays, un pays multiculturel, multispirituel et ouvert naturellement vers les valeurs de l'Ouest. Certains savants parlent de cette complémentarité des spiritualités et des cultures, cette espèce de mélange de tempéraments et des fois, par le fait que nous sommes peut-être une exception dans l'histoire du monde, tout en étant orthodoxe et latin en même temps. De l'autre côté, au nord du continent, il y a un autre exemple, une autre exception, exactement à l'envers. La Pologne est le seul pays au monde qui est slave et catholique. Enfin, un des seuls. Notre latinité et orthodoxie fait en vérité un contraste formidable au niveau de l'énergie créatrice, de la force d'assimiler les croyances, les limites culturelles, les frontières culturelles des autres. Mais c'est tout aussi vrai que la position géographique nous a obligés, pas métaphoriquement, mais physiquement parlant, d'être tolérants avec les autres. Sur notre territoire, il y a une minorité musulmane qui date depuis plus de 6 ou 7 siècles. Ces gens sont impeccablement bien intégrés. Ils n'ont pas un problème identitaire de se considérer musulmans et roumains en même temps. Et ils sont les uns des plus patriotes roumains que nous avons actuellement au pays. Ils ne rêvent même pas de quitter, après 7 siècles de tradition familiale, ce pays, et sont complètement et définitivement roumains. Dès la fondation de l'État roumain en 1866 jusqu'à aujourd'hui, nous avons dans les 3 différentes principautés du pays des minorités, des villages, des communautés, qui nombrent jusqu'à 14 minorités nationales dans un village de 300 familles. Ceci est vrai au Banat, qui est à l'ouest du pays, en Bukovine, qui est au nord du pays, et en Dobrogea, une province historique essentielle de notre histoire, qui est tout au sud, à côté du Danube et de la mer Noire. Figurez-vous, 14 minorités nationales dans un village qui nombre moins de 1000 ou 2000 habitants. N'est-ce pas une espèce de mini-Union européenne avant la lettre? Elle n'a pas été créée par des pères fondateurs ou par des principes et des valeurs communes. Cette appréhension pour le multiculturalisme et le multilinguisme a été créée naturellement pendant des siècles. En Bessarabie, actuellement nommée République de Moldavie, un État souverain séparé de l'État roumain, il y a une minorité gagaouze qui nombre presque un demi-million d'habitants, 400 000, qui sont aussi à leur origine des musulmans qui sont devenus chrétiens et qui ont prouvé pendant les années où Bucarest était leur capitale au sein du royaume de Roumanie, d'une fidélité extraordinaire à la couronne. Du même, les Slovaques, les Tchèques, les Ukrainiens, les Lipovans, les Grecs, les Arméniens, les Juifs, les Hongrois, les Allemands et toutes les autres nationalités que l'Europe embrasse dans le concert des nations et qui ont toujours trouvé ici une vraie maison, une vraie vie. Quand le village devenu ville entre-temps de Sulina a été créé, toujours par le roi Carole Ier, les rues du village ont été dessinées sur la carte, presque comme les rues du Manhattan, des longues lignes droites parallèles qui se croisaient avec d'autres lignes horizontales sur la carte. Parce que le village n'existait pas, il a été créé pour mettre exactement dans un endroit stratégique du point de vue politique, militaire et économique du royaume de Roumanie, une ville qui soit exactement à la rencontre du fleuve du Danube, un autre élément essentiel de notre culture, et la mer Noire. Et dès le début, cette petite ville de Sulina a été la maison de 7 différentes minorités qui ont créé chacune son cimetière et son église, ou bien lieu de prière, si ce n'était pas de chrétiens. Ces 7 églises existent encore aujourd'hui, et c'est extrêmement touchant de les voir. Mais ce qui existe encore malheureusement à Sulina, c'est les espaces vides créés par les bombes qui sont tombées sur la ville lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes d'accord, mesdames et messieurs, que ces bombes ne sont pas tombées sur les maisons de Sulina pour la simple raison de détruire des foyers, des citoyens innocents. L'explosion, la destruction de ces maisons a eu une connotation idéologique, culturelle, géopolitique. Cette fondation du multiculturalisme au bord du Danube et de la mer Noire devrait disparaître, devait disparaître. Ce site est une preuve énorme de l'importance que la coexistence des langues, des cultures, des fois, des croyances est extrêmement dangereuse pour les dictatures et pour tout régime autoritaire, hélas, qui existe encore dans plusieurs endroits au monde. Au début du XXe siècle, la Roumanie n'était pas un pays démocratique, conformément aux normes que nous accordons aujourd'hui au terme démocratie. C'était un pays qui faisait des efforts pour que la démocratie avance, mais rien de ce que nous considérons aujourd'hui à être démocratie n'était mis en place que peut-être un très petit pourcentage. Ceci fait que la plupart de la population vivait en pauvreté et la jeune génération qui provenait des villages ou des familles modestes avait beaucoup de difficultés à trouver moyen d'étudier. Il y avait, comme dans tous les pays de l'Europe de l'époque, une élite. Mais cette élite, alors qu'elle était peu nombreuse et privilégiée, était entièrement bi- ou trilingue. Tous représentant de l'élite intellectuelle, économique, politique, artistique du pays, parlait le français, l'allemand, la langue maternelle et parfois l'italien, l'espagnol, l'anglais. L'intégralité de l'élite intellectuelle roumaine avait étudié, surtout à la fin du XIXe et début du XXe siècle à Paris, à un tel point qu'en 1914, l'année de la mort du roi Carole Ier, 80% des diplômés de l'armée roumaine, c'est-à-dire les jeunes officiers qui finissaient leurs études à l'âge de 24 ans et devenaient lieutenants, étaient des diplômés de Saint-Cyr. 80% de la promotion 1914 de l'armée roumaine. Dernièrement, j'ai visité Saint-Cyr il y a quelques années et il y avait un étudiant roumain à Saint-Cyr. 1914, vous vous rappelez, les caractéristiques de cette année, une année qui a déclenché une conflagration mondiale qui a tué dans les grands pays seulement comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, au moins 1 million de personnes dans chaque pays. Une guerre qui nous a coûté, nous, Roumains, la vie de une personne sur 6. Une guerre qui a aplati l'économie mondiale et qui a changé complètement, dramatiquement, parfois tragiquement, la géopolitique du monde. Ces gens, cette génération, a trouvé la force d'envoyer à Saint-Cyr, lors de cette année-là, 80% des étudiants militaires de la promotion de lieutenant, de jeunes lieutenants du pays. Ceci s'appelle fidélité à l'idée européenne. Ouverture vers la culture des autres. Attachement aux valeurs européennes sans tenir compte de la géographie et des barrières politiques, économiques, sociales et diplomatiques. Paris est l'extrême ouest du continent et Bucarest est l'extrême est. Ces deux points qui sont essentiels pour notre culture étaient difficiles à mettre ensemble au début du XXe siècle, quand il n'y avait pas de train ou de voiture ou des autoroutes. Et pourtant, les connexions furent, à l'époque, et actuellement bien sûr aussi, extrêmement fortes. Mais de nos jours, la société est beaucoup plus démocratique. Quand Sa Majesté, mon épouse, et moi-même avons commencé nos activités publiques en Roumanie après la chute du régime communiste, il y avait peu d'étudiants roumains à l'étranger. En 30 ans, nous sommes arrivés à une, pas aujourd'hui, mais à un moment donné, à un taux de presque 400 000 d'étudiants roumains dans les universités du monde. Et n'en parlons pas de nombre d'étudiants dans les universités de Roumanie qui ont grandi en nombre. Elles sont actuellement jusqu'à, je ne sais pas, 90 dans le pays entier. Ceci crée une autre sorte d'élite roumaine qui n'est plus l'apanage de l'aristocratie. mais qui est l'apanage de la méritocratie. Et au lieu d'avoir quelques dizaines de jeunes brillants dans les grandes universités du monde comme Sorbonne ou Oxford ou Cambridge ou bien Harvard, maintenant nous parlons d'un chiffre de presque un demi-million. Il est clair que parmi ces gens se trouve sans doute un futur prix Nobel ou bien une future personnalité qui saura régler les grands problèmes de l'Europe d'aujourd'hui. Comment est-ce que ceci sera possible? À travers le partage des langues, des cultures, des traditions, des tempéraments, des points de vue, des histoires, parfois différentes, parfois communes, et par les ponts que notre cerveau, mais surtout notre cœur, établira avec ceux de notre génération qui se trouvent loin de nous. Alors, il me semble tout à fait prédictible et béni le fait que la conférence de cette année de l'Observatoire se passe ici en Roumanie, un endroit qui a énormément souffert, dans la plupart des cas sans avoir aucune responsabilité pour les souffrances, un pays où on avait l'habitude de lui dire exactement quoi faire, et qui aujourd'hui, quand il y a encore la démocratie aussi, parfois apporte ce genre de bizarre particularité du comportement, même dans les plus démocratiques familles, on arrive à donner aux autres des leçons et de dire quoi faire. C'est pour cela que ce pays est sensible à recevoir des leçons, un pays sensible à être mis dans le groupe des pays de deuxième main. On n'aime pas ça. Et on a pourquoi ne pas aimer ce genre de comportement. Vous donc, ceux qui œuvrez pour que les langues du continent et du monde se mettent ensemble d'une manière plus productive possible, mais surtout ceux de la jeune génération qui vont bénéficier des fruits de vos activités et de votre effort. Auront la chance de transformer cette généreuse activité civique que vous menez, culturelle, mais civique aussi, et la transformer en stabilité, en prédictabilité et en surtout en une compréhension plus profonde de nos sociétés d'aujourd'hui. Un dernier mot sur ma famille. Nous comptons 5 générations de la famille royale, y compris la nôtre. Donc cette institution de la couronne en Roumanie est une très jeune institution. Rien à comparer avec les familles royales de la France, de l'Angleterre, du Danemark, de l'Allemagne, de la Russie, où les dynasties comptent 1000 années. Ici, nous parlons d'une très jeune institution fondée seulement il y a 153 ans, qui a eu la chance d'œuvrer ensemble avec la partie moderne de l'histoire du pays. Ceci explique le fait que mon beau-père, le roi Michel, qui est mort il y a un an et demi, était tellement populaire au pays, aimé, respecté et considéré comme une espèce de symbole de la démocratie et des libertés. Il n'était pas vu comme une espèce de personnage médiéval qui fait peur et qui parle d'une espèce de faits et d'histoires qui sont une espèce de mythe de nos débuts de l'existence de la nation. C'était une personne qui s'habillait d'une manière très moderne, qui a eu la chance historique de faire face à Hitler à l'âge de 18, 19, 20 ans, et qui a été assez longévive pour militer pour l'OTAN et pour revenir sur la scène politique internationale pour dire au monde comment on se sent alors que nous-mêmes, comme êtres humains, sommes le pont entre la période de l'entre-deux-guerres et le monde transatlantique d'aujourd'hui, conduit par des gens qui n'étaient même pas nés à l'époque où il a écrit l'histoire de ce continent. Mais ce que je voudrais vous dire, par contre, à propos de ma famille, c'est que dans ces peu de générations, dans 5 générations, chacune des personnalités qui formaient la famille à l'époque et aujourd'hui sont des personnes qui parlent de 2 à 3 à 4 à 5 à 7 langues étrangères, comme ce fut le cas de la reine Elisabeth, la première reine roumaine, qui parlait couramment 7 langues, et puis après le deuxième roi Ferdinand, qui parlait couramment 6 langues étrangères, 3 modernes et 3 classiques. Quoi dire de sa femme, la reine Marie, qui était fluente en français comme en anglais et puis après en roumain. C'est donc non seulement un don, mais un principe de la famille, que le multilinguisme soit une espèce d'instrument qui aide le leader symbolique, qui est le leader royal, à mettre ensemble les parties du monde et surtout les parties du monde qui sont en contraste d'une manière ou d'une autre, politique, culturelle, économique ou simplement contraste géographique. Je vous attends avec grand plaisir, ceux qui faites partie de la délégation de l'Observatoire, pour continuer notre rencontre aujourd'hui au Palais Élisabethin. Et je vous remercie beaucoup pour la chance que j'ai eue de vous parler ce matin d'un sujet si généreux et important.